Alors bonjour à toutes et à tous. Je sais que c'est Ruben qui a été annoncé, hein, mais il va parler tout à l'heure. Mais c'est moi qui prends la parole en premier, pas pour très longtemps, hein, je vous rassure. Et ce que je vais dire va servir d'introduction à la nouvelle série de prédications que nous démarrons sur l'Épître aux Colossiens. Et vous voyez l'intitulé de cette série, Christ au centre. Alors, si je devais vous demander à main levée, mais je ne vais pas nécessairement le faire, si Christ est au centre de votre vie, que répondriez-vous? Certains vont peut-être lever la main spontanément. Oui, Christ est au centre de ma vie, je peux l'affirmer haut et fort. D'autres vont lever la main avec peine et hésitation, parce qu'ils savent très bien ce qu'il en est. Et puis d'autres encore, lucides sur la réalité qu'ils vivent en ce moment, ne vont pas lever la main. Christ n'est pas au centre de ma vie. Or, nous pourrions dire que le comble pour des chrétiens est que Christ ne soit pas au centre. Nous pourrions aussi examiner notre vie d'église. Est-ce que Christ est au centre de notre vie d'église? Alors, très certainement lors du culte, comme ce qu'on est en train de vivre, et heureusement, mais en dehors du culte, le reste de la vie d'église, est-ce que Christ est toujours au centre? Et parlons un petit peu du contexte de cette lettre, de cet épître aux Colossiens. D'abord, une question de géographie. Où est-ce que se trouvait la ville de Colosse? Alors, certains ont étudié le texte cette semaine, donc ils doivent être au courant. En Asie mineure, oui, bonne réponse. Je vais montrer une carte. En Asie mineure, donc Colosse, qui se situe dans la Turquie actuelle. Et effectivement, vous voyez un petit peu les autres villes importantes de l'époque pour vous situer un petit peu. Effectivement, Colosse était une ville d'Asie mineure, pas très loin de deux autres villes qui sont aussi mentionnées dans la lettre, Laodicée, que vous voyez un peu plus haut, et Hiérapolis. Et en fait, ce sont ces deux villes-là, hein, Laodicée et Hiérapolis, qui étaient des villes vraiment importantes dans la région, Colosse un peu moins. Et il faut imaginer qu'à Colosse, il y avait beaucoup de passages. Il y avait des gens de différentes cultures, culture païenne, culture juive, qui passaient par là. Un brassage culturel qui forcément influençait les habitants locaux, jusque dans l'église. D'ailleurs, s'il y a une église à Colosse, c'est, semble-t-il, grâce à un certain Épaphras. C'est Épaphras qui a apporté l'évangile dans cette ville. C'est Épaphras qui lui-même a dû connaître l'évangile grâce à l'apôtre Paul, qui était à ce moment-là à Éphèse, grâce au ministère de l'apôtre Paul. Autrement dit, Paul, qui est l'auteur de la lettre qu'on va étudier, n'a pas mis les pieds dans la ville de Colosse. D'ailleurs, il ne connaît même pas les chrétiens qui sont là-bas. Il ne les connaît pas personnellement. Il ne les a jamais rencontrés. Et quelques années après l'établissement de cette église, c'est ce même Épaphras qui a dû venir de Colosse jusqu'à l'endroit où Paul était emprisonné. Et beaucoup pensent que c'était à Rome. Et c'est là que Paul apprend que l'église de Colosse, alors bien sûr, manifeste la foi, l'espérance et l'amour, le signe que ces chrétiens ont vraiment été touchés par l'évangile de Jésus-Christ, mais, parce qu'il y a un mais, d'autres influences se mélangent à l'enseignement chrétien. Il y a Christ, mais il y a aussi autre chose. Et dans le deuxième chapitre de la lettre, eh bien, Paul fait référence à ces quelques influences. Je vous les mentionne très rapidement. Il est question de philosophie. On entend parler de règles juives, notamment sur ce qu'il faut manger ou non, sur les différents sabbats qu'il faut respecter. On parle du culte des anges qu'on ajoute à l'enseignement chrétien. Et on parle aussi d'ascétisme, c'est-à-dire des pratiques où on accepte des privations, notamment souvent des privations par rapport à son corps, en vue d'être ou de paraître plus spirituel. Donc vous voyez qu'il y a tout ce mélange d'enseignements qui s'ajoutent à l'évangile. Et cette situation est suffisamment préoccupante pour que Paul écrive, depuis sa prison, une lettre à ces chrétiens qu'il n'a jamais vus. Et il affirme dans cette lettre avec force que les chrétiens n'ont pas besoin d'autre chose que de Jésus-Christ. Ils n'ont pas besoin d'autre chose en plus de Jésus-Christ. Jésus leur suffit. Ils ont juste besoin d'une personne, c'est Jésus. Jésus leur suffit s'ils considèrent de nouveau qui est ce Jésus et ce qu'il a fait pour eux et pour toute la création. Et je vous énonce simplement quatre objectifs dans le cadre de cette série de prédications, que justement en étudiant cette lettre, on puisse être conduit à quatre choses. Premièrement, à aimer, à adorer Christ. Et j'ai mis entre parenthèses encore plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, à vivre une vie où Christ est suffisant. Aujourd'hui, vous aurez encore des enseignements semblables à ce qui circulait à Colosse, pour nous faire croire que pour s'approcher de Dieu, il faut Christ plus autre chose. Vivre une vie où Christ est juste suffisant. Troisièmement, vivre une vie qui soit enracinée en Christ. Et pour cela, il s'agit de mieux comprendre ce que signifie être en Christ ou être uni à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on aura aussi l'occasion dans cette série de pouvoir en parler. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui est enracinée en Christ ? Et puis, enfin, puisque Paul aussi en parle, eh bien, quatrième objectif, il s'agit de pouvoir aussi être amené à cultiver la reconnaissance. La reconnaissance qui fait partie de la vie chrétienne. Des chrétiens qui ne sont pas reconnaissants, c'est sans doute un mystère et une bizarrerie. Mais Paul mentionne à plusieurs reprises dans sa lettre, au contraire, il exhorte ces chrétiens à être reconnaissants envers Dieu. Et avant de laisser Ruben prendre la parole, je vous invite à suivre la lecture de la parole de Dieu. Dans le début de cette lettre, les 11 premiers chapitres, les 11 premiers versets. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Sans plus tarder, je vais laisser à notre frère Ruben prêcher sur ce texte et que l'Esprit de Dieu te guide.
Merci Philippe. Bonjour à chacune et à chacun. Toujours un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir avec ma famille complète. Et plus encore, puisqu'il y a aussi ma belle-mère qui est avec moi de Madagascar. Donc voilà, donc avec ma femme, mes deux filles. Donc on est très content d'être avec vous encore aujourd'hui. Et très content aussi de partager ce texte de la parole, ce texte de Colossiens. Une très belle série qui vous attend et qui est vraiment formidable. Je me rappelle deux histoires. La première, c'est un homme qui... était un djihadiste. Et on lui avait dit, voilà, il y a une rencontre de chrétiens, c'est ton tour de te donner, de t'offrir pour la mission et de faire exploser, de te faire exploser au milieu de la rencontre. On sait où elle est, on connaît le lieu, le rendez-vous, il est secret, mais vas-y. Et donc il y va avec toute une ceinture d'explosifs entourée de lui, et il arrive à se faufiler au milieu, il y avait plus de 250 chrétiens. C'est une histoire récente, c'est un ami qui est missionnaire auprès des populations musulmanes qui m'a raconté cette histoire. Et il arrive au milieu de cette population, de cette réunion d'évangélisation, où ils allaient diffuser le film de Jésus, et l'histoire de Jésus. Et il commence le film, et dès les premières images, le djihadiste était au milieu de la scène, et il interpelle, il dit « Ah tiens, je vais pas me faire exploser tout de suite ». Je vais attendre un petit peu le milieu de l'histoire. Il arrive au milieu de l'histoire, tellement subjugué par l'histoire de Jésus et de son message, il dit « Attends, je vais quand même continuer. » À la fin du film, donc jusqu'à la fin du film, il est percuté dans son cœur, percuté par l'histoire de Jésus. Et là, il se lève et il dit aux gens « Écoutez, je suis venu aujourd'hui. » Et donc les gens, ils ont peur, ils disent « mince, qu'est-ce qu'il va faire lui là ?» Ils comprennent que voilà, c'était pas quelqu'un qui devait être là. Il dit « en fait, je viens d'être touché par cette histoire et je suis là pour me convertir. » Impressionnant comme histoire. Et donc on lui a enlevé sa ceinture d'explosifs et cette personne-là s'est convertie. Et j'ai un de mes meilleurs amis, dans un cours de récréation, il sortait avec une fille et cette fille était sœur de quelqu'un de chrétien, qui aimait la parole de Dieu, et ce frère du chrétien lui parlait souvent de l'évangile, et un jour il lui parle à la récréation, il va avoir 17 ans, et le chrétien lui parle à la récréation, et il vraiment lui annonce l'évangile, il dit « écoute, il faut vraiment que je te dise, tu sais que devant Jésus, devant Dieu, tu es pécheur, devant Dieu, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu, et c'est pour ça que Jésus est venu, et il lui annonce l'évangile. » Et mon ami entend ça, il rentre dans la classe, et lui, c'était quelqu'un d'assez cartésien, rationnel. Et voilà. Au milieu de la classe, il commence à pleurer. Et il n'arrivait pas à s'arrêter. Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe en moi ?» Et en fait, il avait compris que c'était ce message qui venait de le percuter. Il avait été touché au plus profond de son cœur. Et il avait été percuté par ce message puissant. Et il est bon de se rappeler, les amis, aujourd'hui, mon ami est à plein temps pour le Seigneur, donc qui aurait cru que ce jeune qui était très cartésien et qui disait « ouais, voilà, bon, si tu veux, la foi », aujourd'hui, il est à plein temps pour le Seigneur. Et tout a commencé par l'annonce de l'évangile à ces personnes-là. Finalement, il y en a un, on lui a annoncé l'évangile par le film, l'autre dans une cour de récréation. L'évangile est puissant, l'évangile de Jésus-Christ est puissant pour transformer les vies. Et c'est ce que je crois que ce texte va nous rappeler. Et c'est pourquoi Paul peut se réjouir. Et on voit trois grandes parties dans ce passage. La première, c'est les salutations classiques qu'on va retrouver dans beaucoup de lettres. La deuxième, c'est vraiment une prière de reconnaissance. Tu vas commencer à partir du verset 3. Et à partir du verset 9, on va avoir une prière d'intercession, une prière de demande de l'apôtre Paul, qu'il se passe des choses dans la vie des personnes qu'il va rencontrer. Et cet après-midi, j'aimerais vraiment me réjouir avec vous de la puissance de l'Évangile, de la joie qu'elle peut procurer quand on regarde ce que l'Évangile fait, l'Évangile de Jésus-Christ fait dans les vies, et aussi l'œuvre qu'il fait quand il touche les personnes, et donc les prières que nous pouvons faire pour celles et ceux qui nous entourent, et pour nous-mêmes, pour voir comment l'Évangile transforme. Donc, trois grandes parties. Une partie, on va aller rapidement, puisqu'on a déjà parlé un petit peu de l'apôtre Paul et de son ministère. Et ensuite, deux parties sur lesquelles on va plus s'arrêter. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La personne qui écrit cette lettre est un fruit direct de l'Évangile puissant, n'est-ce pas ? Vous connaissez toutes et tous l'histoire de l'apôtre Paul, enfin j'imagine. Cet homme complètement opposé à l'Évangile. Et c'est bon quand on lit les textes de la parole de Dieu, en particulier les épîtres de Paul, de nous rappeler qui est la personne qui a écrit, quelle a été son histoire. il a été choisi par Jésus. Sur le chemin de Damas, il a eu cette lumière importante et il a compris que c'était Jésus qui lui parlait. Pendant trois jours dans l'aveuglement, puis Ananias, un frère, vient le délivrer, le baptiser et le guérir. Et à partir de ce moment-là, la vie de Paul change. Il a compris qu'en fait, le Messie qu'il avait cru, qu'il attendait en tant que juif, en fait, c'était Jésus-Christ. Et Jésus était plus que le Messie. Il était aussi le Fils de Dieu. Et c'est bon de se rappeler qui était Paul. Parce que là, regardez comment Paul parle. Déjà, il sait qui il est désormais. Il n'est pas là à cause de lui-même. C'est la volonté de Dieu qui a choisi qu'il soit cet homme, qui est à ce moment-là en prison, mais qui se soucie encore des églises, qui collabore. Donc, on connaît Timothée, qui est un de ses plus fervents collaborateurs. Et ce qui me marque dans cette lettre, et vous allez le voir déjà dès le départ, c'est l'amour de Paul pour des gens qu'il ne connaît pas. Nos fidèles frères et sœurs en Christ. Paul aime l'Église de Jésus. Paul aime les chrétiens. Paul a le souci des églises, lui-même le dira. Et ici, il est en train de leur écrire parce qu'il se soucie d'elles, parce qu'il les aime, parce qu'il veut les voir grandir, être édifiés. Même si ce n'est pas une église qu'il a implantée, c'est sûrement un de ses, comme il a été dit tout à l'heure, un de ses disciples, Epaphras, qui a fondé cette église, Paul aime les chrétiens. Et ensuite, il donne cette adresse que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui est sûrement une adresse qu'on donnait en cette époque-là entre les chrétiens, grâce et paix. On va le revoir, qu'il va le mentionner en Thessaloniciens, il va le mentionner en Corinthiens, il va le mentionner, et Pierre aussi va le mentionner dans ces deux lettres, que la grâce et la paix vous soient données. Donc c'est quelque chose qu'on se souhaitait à l'époque entre chrétiens. Et donc voilà les salutations un petit peu où il pose le cadre, il pose à qui il est en train d'écrire, il leur donne la bénédiction classique, mais il est bon de se rappeler quelle est l'histoire de l'apôtre Paul, d'où il vient et combien le Seigneur l'a transformé et qu'il est le fruit de la puissance de l'Évangile. Et donc, deux grands moments maintenant. Une première, il va nous présenter une prière de reconnaissance et deuxième, il va prier pour les Colossiens. Verset 3, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. Alors, ce qui est très interpellant avec l'apôtre Paul, c'est ce regard qu'il a sur les chrétiens. Quand il y a des gens qui pensent aux chrétiens, je ne sais pas vous, quand vous pensez aux églises, vous pensez à quoi? Quand vous pensez aux différentes églises qui vous entourent, vous pensez à quoi? Certains pensent à rien. Voilà. Peut-être certains pensent à la belle œuvre qui se fait. Parfois, j'entends des chrétiens qui pensent surtout à ce qui ne va pas chez les autres, n'est-ce pas? À ce qui ne va pas dans certaines églises, à ce qui n'est pas bien fait, aux dérives qu'il y a eu. Et c'est vrai que c'est triste, ces choses-là. Certains chrétiens vont se focaliser sur le style de musique, sur la façon dont la personne a prêché, sur la façon dont ils ont été accueillis, etc., etc. Et on peut être déçu, effectivement, de cette église qui n'est pas parfaite. Mais Paul, quand il pense aux Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Je dis constamment ma reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque je prie pour vous. Paul est quelqu'un de reconnaissant quand il pense aux chrétiens. Et on le voit bien dans d'autres lettres, parce que dans de nombreuses lettres, Paul va commencer avec beaucoup de reconnaissance. J'avais mentionné les lettres des Thessaloniciens. Il va commencer sa lettre de Thessaloniciens avec une grande reconnaissance pour les Thessaloniciens, pour les Philippiens, il va dire merci Seigneur, pour les Éphésiens, il va dire merci Seigneur, même pour les Corinthiens, vous connaissez les Corinthiens quand même, l'église de Corinthe, où il y avait des divisions, où il y avait des fausses doctrines, où il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui étaient particulières, où il y avait une façon de s'enorgueillir des dons que Dieu avait donnés, il y avait des dérives. Paul arrive à dire merci Seigneur pour ce que tu fais dans leur vie. Les amis, quelle leçon Paul est en train de nous donner? Quand on regarde aux chrétiens, la première chose que nous devons voir, c'est l'œuvre de Dieu en eux. Pourquoi Paul se réjouit? Il nous le dit juste après. Il n'a pas vu ces gens-là, mais il a entendu parler d'eux par Epaphras. Verset 4, « Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez vu pour tous les saints. » Nous avons entendu qu'il se passe des choses dans vos vies. Vous vous rappelez tout à l'heure le contexte. Ils sont sous pression, il y a des choses difficiles, il y a des fausses doctrines qui sont autour d'eux, ils doivent rester fermes. Donc Paul aurait pu dire, oh là là là, ils vont pas bien. Et c'est vrai, tout à l'heure, plus tard, il va le traiter. Mais la première chose qu'il dit, c'est « Merci Seigneur ». Merci Seigneur pour la foi qu'ils ont. Et rappelons-nous, frères et sœurs, lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ, c'est un miracle, c'est merveilleux, c'est formidable. Quelle est la joie et la mesure que nous donnons à l'œuvre de Jésus-Christ dans une vie ? C'est vrai, et surtout plus on a circulé dans la foi chrétienne, dans les églises chrétiennes, on peut voir les défauts des uns et des autres. On peut être déçu de ce que les uns et les autres font, ou même disent. Et aujourd'hui, avec YouTube, on a accès à tellement de choses, mais aussi tellement de bêtises, hein, n'est-ce pas ? Que voilà, on se dit, oh là là, cette église, oh là là, cette église. Mais la première chose que Paul dit ici, il dit, je remercie le Seigneur. J'aimerais vraiment aussi qu'on puisse partager cette façon de réfléchir de Paul. Quand je vois un frère, quand je vois une sœur, je veux juste dire, merci Seigneur pour qui elle est. Merci Seigneur parce qu'elle a accepté Jésus, ça veut dire qu'elle est pardonnée, ça veut dire que ses péchés ne sont plus là, ça veut dire que Jésus vit en elle, ça veut dire qu'elle a la vie éternelle, ça veut dire qu'elle a reconnu Dieu comme Seigneur Jésus, comme son Sauveur et son Seigneur. Et Paul dit, j'ai aussi entendu parler de votre amour. Il se passe des choses dans leur cœur, ils sont désormais en train d'agir pour aimer leur prochain, et a priori, d'après ce que Paul dit, ils vont même aimer au-delà de leur église, puisqu'ils ont un amour pour tous les saints. Voilà, les amis, le regard de l'apôtre Paul. Et c'est un regard que nous voulons nous rappeler. Oui, quand nous voyons un chrétien, quand nous voyons une chrétienne, quand nous entendons parler d'une église où l'évangile se répand, on peut juste se réjouir et être reconnaissant. Il y a de la foi, il y a de l'amour. Et cinquième, il y a de l'espérance. Verset 5, il y a de l'espérance. Vous avez de l'amour, vous avez de la foi parce que vous avez une espérance qui est réservée au ciel. Et voilà ce que dit Paul, cette espérance, vous l'avez entendue parler par la parole de la vérité, l'évangile. Oui, lorsque nous sommes chrétiens, il y a cette espérance que plus jamais nous serons séparés de Dieu. Plus jamais nous n'aurons à subir la distance d'avec Dieu parce que nous sommes pardonnés et nous avons la vie éternelle qui nous est offerte. Et ça aussi, c'est une grande grâce. Et ça aussi, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui l'annonce et qui le proclame. Et en parlant de l'évangile, justement, Paul va, encore une fois, trouver un sujet de louange à partager avec ses frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il va leur dire au verset 6, « Cet évangile est parvenu jusqu'à vous, tout comme le monde, tout comme le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. » L'évangile progresse. Et ça, c'est une annonce qui est merveilleuse. Dans ce monde, je ne sais pas, quand vous regardez ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il progresse ? Alors aujourd'hui, on a une grande peur de l'intelligence artificielle. Pour beaucoup, vous avez vu ça ? Des grands, où est-ce qu'on va ? Où est-ce que l'humanité va ? Avec tout ce qu'on arrive à faire, avec les deepfakes, avec beaucoup de choses où on se dit, l'intelligence artificielle arrive à transformer, à mimer des discours, à mimer des artistes, à générer beaucoup de choses inquiétantes pour certains. Quand on regarde les retraites, le traitement des retraites, on se dit, mais où va la France ? Regardez, le président ne nous considère pas, etc. Donc, où est-ce que va notre société, où est-ce que va le monde, chacun sa vision. Mais ce que Paul avait comme vision, il dit, l'évangile, il progresse. Il progresse. Jésus a donné un mandat, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant et leur enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Paul, il est convaincu que cet évangile, il progresse, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et il progresse jusqu'à Colosse. Et moi, j'aime voir cette image. J'aime garder cela en tête. Quoi qu'il arrive, l'évangile progresse. Quoi qu'il arrive, des hommes et des femmes sont touchés. On a listé des pays qui sont des pays qu'on appelle des pays qui persécutent les chrétiens. L'association Portes Ouvertes a sorti un index qu'il publie et qu'il communique aux plus, au plus grand nombre, auprès de même des instances européennes, des instances nationales, pour dire voilà les pays où on persécute le plus les chrétiens et où vraiment les chrétiens sont malmenés. Et on a des pays comme l'Afghanistan, des pays comme la Corée du Nord, des pays comme la Syrie pendant un temps. Donc tous les ans, ils font leur publication. Mais ce qui m'interpelle, c'est que pour chacun des pays que nous voyons, où les chrétiens sont sous une pression militaire, une pression politique, une pression familiale, une pression sociale, l'évangile progresse. Vous prenez chaque pays, il y a une histoire merveilleuse derrière chaque pays. Certes, sous pression, sous difficulté, mais en Afghanistan, des histoires tellement impressionnantes. En Corée du Nord, des histoires tellement folles, où Dieu est en train d'agir encore et encore, et où le lumignon qui fume n'est pas éteint, où la lumière de Christ continue encore à progresser sous le feu, sous les attaques les plus fortes. L'évangile progresse. La proclamation de l'évangile de Jésus-Christ continue. Et il porte du fruit. Il transforme des vies. Parce que oui, il ne progresse pas juste géographiquement et en nombre, mais quand Paul parle de l'évangile qui progresse, il parle aussi de la progression dans les vies et dans l'Église. Et c'est pour cela qu'il va dire à la fin du verset 6, « C'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu, connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé et compagnon de service, dit l'évangile progresse dans vos vies. » Et la prière que nous allons voir, on va voir justement que c'est ce qu'il va demander, que cet évangile continue à porter du fruit encore plus dans la vie des uns et des autres. Et cet évangile, les amis, je veux vraiment nous rappeler ce que Paul dit en Romains chapitre 1, verset 17. Il est une puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est fort, hein ? L'évangile, c'est un message. C'est le message de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Le message du pardon de Jésus. C'est le message de celui qui est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu. C'est un message. Mais c'est aussi la puissance de Dieu. Il y a quelque chose de fort et de beau et de puissant que lorsqu'on proclame l'évangile, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte aux gens. C'est ce que Dieu a utilisé comme moyen pour transformer des cœurs et des vies. Et aujourd'hui encore, les amis, nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin de nous proclamer cet évangile merveilleux. Nous avons besoin de nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ, non seulement pour notre salut, mais aussi pour notre transformation. Et c'est pour ça que Paul, dans cette deuxième partie de ce chapitre, va prier pour les Colossiens. Et la première chose qu'il va prier, regardez ce qu'il va prier. Voici pourquoi, verset 9, et là on passe à la deuxième partie de sa prière. Depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Que vous puissiez être pénétrés au plus profond de votre être de ce que Dieu veut. Que vous sachiez, que vous puissiez être enveloppés et comprendre quelle est la volonté de Dieu, quel est son plan, quelle est sa personne, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et ensuite, il va décrire ce que cette connaissance va produire comme fruit. Il va dire, voilà ma prière. Il va dire des choses magnifiques tout à l'heure. Il va dire au verset 10, pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, que vous puissiez lui plaire entièrement, pour que vous ayez des fruits de toute œuvre bonne. Verset 11, que vous soyez fortifiés. On va voir ces choses tout à l'heure. Mais toutes ces choses-là commencent par quoi? Regardez par quoi elles commencent. Par la connaissance, par la plénitude de sa connaissance, sa volonté. Paul est convaincu que plus le chrétien est conscient du message de Dieu, de la volonté de Dieu, de la personne de Dieu, alors derrière, les choses vont aller naturellement. Derrière, il pourra d'autant plus porter du fruit. Derrière, il pourra d'autant plus marcher d'une manière digne. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Il ne suffit pas juste de corriger les gens pour qu'ils puissent bien marcher avec Dieu. Il faut les instruire. Il faut les faire connaître la volonté de Dieu. Il faut prendre le temps de confronter les personnes à sa parole et à sa personne, à la personne de Dieu. Et ce qui est beau dans une prière, c'est qu'on voit ce que Paul, ce que quelqu'un a à cœur, n'est-ce pas ? Quand vous priez, c'est vraiment ce que vous avez à cœur, ce qui compte pour vous. Donc si je vous dis prier pour une personne, voilà, prier pour une église, vous allez prier les choses que vous estimez être importantes et essentielles pour elle. Et là, on voit le cœur de Paul. On voit que le cœur de Paul, c'est là. Et en fait, finalement, puisque nous croyons que Paul était inspiré de la volonté de Dieu, qu'il a écrit ses paroles avec autorité, en fait, je pense que Paul est en train aussi de nous transmettre le cœur de Dieu. Que ici, ce que Dieu veut, frères et sœurs en Christ, c'est que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'ils puissent marcher d'une manière digne du Seigneur, qu'ils puissent lui plaire, qu'ils puissent porter du fruit, qu'ils puissent être fortifiés. J'aimerais clairement faire ce parallèle, et je pense qu'on peut le faire sans aucun souci. Malgré le contexte de l'église de Colosse, ce que Paul demande, je pense qu'on peut le demander pour tous les chrétiens. Et je pense que Dieu le veut pour tous les chrétiens. Dieu veut voir son peuple marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire, n'est-ce pas ? Dieu veut que son peuple porte des fruits. Cela nous rappelle les paroles de Jésus au chapitre 15 de Jean, où il dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Jean 15, il parlera encore de l'importance de demeurer en lui, de demeurer dans ses paroles pour que nous puissions porter du fruit. Et il dira même « C'est comme ça que mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. » Et donc que le chrétien puisse porter du fruit est quelque chose de bon et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut voir le chrétien aimer son prochain. Dieu veut voir le chrétien manifester de la patience, être un témoin fidèle, quelqu'un qui rayonne autour des uns et des autres. Dieu veut voir le chrétien être un homme et une femme honnête, rempli de bonté et de bienveillance, qui grandit à l'image de Jésus. C'est quelque chose de bon. Et il veut aussi que les chrétiens soient fortifiés à tout point de vue par la puissance glorieuse de Dieu, pour qu'au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, ils puissent persévérer et être patients. Beaucoup de choses qu'on aimerait partager par rapport à ces textes. Ici, nous voyons ce que Paul veut, et vous allez le voir à travers les lettres aux Colossiens, comment Paul va encourager ces Colossiens à marcher d'une manière digne du Seigneur, à porter du fruit en toute œuvre bonne, à progresser dans la connaissance de Dieu. Il va aider les Colossiens à progresser là-dedans, et tout cela va les aider à être fortifiés et à se rappeler que c'est la puissance de Dieu qui doit agir au milieu d'eux. Mais je veux nous rappeler que nous sommes dans un texte qui relate une prière. Et ça, c'est crucial. Paul sait qu'au-delà de son ministère, au-delà de ce qu'il va faire et ce qu'il va dire, au-delà de ce qu'il va écrire, au-delà de ce que ses Colossiens vont écouter et comprendre, Paul sait qu'il doit d'abord compter sur Dieu pour que ces choses-là s'accomplissent dans leur vie. Paul sait que c'est à Dieu aussi d'agir dans le cœur de ces personnes pour qu'elles puissent être remplies de la connaissance de Dieu. Paul sait que c'est à Dieu aussi de transformer les vies, de transformer les cœurs, de permettre que les paroles qui sont prêchées, qui sont écrites dans cette lettre, puissent résonner. Et je sais que cet après-midi encore, si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est la puissance de l'Esprit, alors mes paroles ne vont pas résonner dans les cœurs. Et j'aimerais vous dire, vous aussi, sachez que si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est sa puissance dans votre vie, vous ne pourrez pas vivre ces choses-là. Vous ne pourrez pas marcher d'une manière digne de votre Seigneur. Vous aurez beau faire tous vos efforts, si ce n'est sa grâce, si ce n'est son soutien, si ce n'est son appui, si ce n'est son intervention, alors tout cela sera vain. Et c'est pour cela que je veux terminer ces moments en nous exhortant à venir aux pieds de notre Seigneur. En nous exhortant, comme l'apôtre Paul, à prier les uns pour les autres, à prendre du temps pour de prier chacune et chacun, pour que nous puissions être remplis de la connaissance de sa volonté. Quels sont nos efforts? Vous allez les avoir, mais je vous en donne quelques-uns. Déjà, c'est par le contact permanent avec la parole de Dieu, avec l'évangile, avec la personne de Christ, que nous pourrons être remplis de la connaissance de sa volonté. C'est en acceptant de se remettre en cause et de revoir la façon dont nous pensons les choses, puisque nous voulons laisser la volonté de Dieu forger notre propre volonté et faire la prière de Jésus qui dira « Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté ». Donc nous devons accepter que parfois, notre volonté n'est pas toujours celle de Jésus-Christ. Et donc nous devons accepter de corriger la façon dont nous abordons notre propre vie. Et là, nous pouvons être très concrets. Dans notre rapport au travail, comment puis-je être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu? Comment est-ce que je me comporte avec mes collègues? Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, pour que dans ce domaine-là, je puisse marcher d'une manière digne, que je puisse porter du fruit, que je puisse être fortifié à tout point de vue, dans mon travail, par ta puissance glorieuse. Dans notre couple, c'est pour nous qui sommes mariés, avec nos enfants, pour nous qui avons des enfants, comment puis-je laisser la volonté de Dieu transformer mon cœur, mes pensées, dans la façon dont je parle à mon conjoint? Seigneur, remplis-moi de ta volonté, pour que là aussi, en toute sagesse et intelligence spirituelle, je puisse marcher d'une manière digne de mon Seigneur et lui plaire, que je puisse être quelqu'un qui porte du fruit dans ma famille, dans l'Église aussi, de sa mort. Quelle est la volonté de Dieu à ton égard, dans ta relation avec tes frères et sœurs, dans ton engagement pour l'Église? Là encore, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Je nous encourage, les amis, à faire de la prière de l'apôtre Paul notre prière, faire de cette prière notre prière, que nous puissions laisser le Seigneur transformer nos cœurs, nous mettre à son écoute, nous remettre en cause, laisser la volonté de Dieu construire notre volonté pour pouvoir ensuite glorifier notre Seigneur. Soyons concrets aussi. Parfois, il y a des choses, des paroles que nous disons, des actions que nous faisons, des directions que nous avons, des pensées que nous laissons dans nos cœurs qui peuvent ne pas honorer Dieu. Laissons-le aussi travailler dans ces domaines-là. Parce que cette prière, c'est une prière qui honore Dieu et Dieu fera vraiment ce travail auprès de celles et ceux qui l'écoutent. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est que maintenant, nous puissions avoir ce temps de prière. Et j'aimerais vraiment nous encourager, on prie souvent dans nos églises, et merci Seigneur, hein, mais j'aimerais vraiment nous encourager, j'aimerais vous raconter deux histoires qui m'ont été relatées récemment. La première, c'est l'histoire de cette sœur qui avait du mal à faire confiance à Dieu et elle avait plus confiance à ses peurs qu'en son Dieu, au point où elle avait vraiment des peurs presque paranoïaques, des peurs régulières. J'ai quelqu'un qui est dans mon armoire et qui me regarde, etc. Elle voulait vraiment que Dieu la délivre, mais voilà. Et un jour, elle était dans une chorale, une personne vient vers elle, donc c'était 80, et une personne vient vers elle, et puis elle dit, écoute, je voulais prier pour toi. Bah ok, bah vas-y. Et là, cette personne prie, Seigneur, enlève les peurs de ma sœur, que ma sœur ait vraiment confiance en toi, qu'elle grandisse dans sa confiance en toi. Notre sœur, ma sœur, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur et qui s'attache à lui. Et écoutez, du jour au lendemain, elle m'a dit, mes peurs ont disparu. Elles se sont évaporées. Elle a dit, le combat était, il y avait encore des choses à persévérer. Je devais me rappeler, je devais me proclamer à moi que je n'avais plus à avoir peur, que Dieu était au contrôle. J'avais encore parfois des petites pensées, mais j'arrivais désormais à renoncer à ces peurs et à mettre Jésus au centre de l'œuvre et au centre de ma vie, comme il nous a été demandé tout à l'heure. Le fruit d'une prière. Si Paul prie, c'est qu'il sait l'efficacité de la prière. Ce n'est pas juste par forme. Et donc là, je vous propose d'avoir un temps où on va prier les uns pour les autres, mais avec confiance. Mais avec confiance. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se mettre par deux ou trois et qu'on puisse avoir juste un temps. On va commencer d'abord par remercier le Seigneur pour la personne qui est à côté de nous. D'accord ? Donc, je ne sais pas à côté de qui vous êtes, mais vous pouvez déjà remercier le Seigneur. Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa vie peut-être, pour certains, vous connaissez très bien, mais vous pouvez déjà remercier le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est un chrétien, en tout cas j'espère que la grande majorité d'entre nous ici est un chrétien, ou en tout cas il est à l'église, c'est déjà très bien. Mais juste remercier le Seigneur, merci pour sa présence, merci pour l'œuvre que tu as faite pour lui, pour elle, sur la croix. Merci parce que c'est un enfant de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, certains ne sont pas encore enfants de Dieu, sachez que la main de Jésus est encore tendue cet après-midi pour que vous puissiez l'expérimenter. Donc on va commencer par un sujet de reconnaissance. Si vous connaissez d'autres choses de cette personne, priez pour lui et dites merci Seigneur. Et la deuxième partie de la prière, vous la connaissez, ce sera quoi ? Qu'il soit rempli de quoi ? Voilà, de la connaissance de la volonté de Dieu. Que dans tous les domaines de sa vie, qu'il puisse expérimenter cette grâce immense. Ça vous va ? On se met par groupe de deux ou trois. N'hésitez pas à partager les prénoms si vous ne vous connaissez pas. Et on prend un temps de prière. Et ensuite, je reviendrai ici pour clôturer par une prière plus formelle. Et si vous voulez être inspiré par la prière, je vous redis les thèmes que Paul... Est-ce que tu peux juste remonter Voilà, c'est bon. Que Paul va aborder, je vous les redis, hein. Qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement, pour porter du fruit et toutes sortes d'œuvres bonnes, pour progresser dans la connaissance de Dieu et pour être fortifié à tout point de vue par sa puissance glorieuse. Utilisez vos propres mots, hein. Ça, c'est les mots de Paul, mais utilisez vos propres mots. Et on va prier pour notre frère, pour notre sœur, et croyez que Dieu entend ce genre de prière. À tout de suite. Voilà, je vous laisse 5 minutes, comme ça. Seigneur notre Dieu, merci. Merci, merci, merci pour l'église de Saint-Maur. Merci, Seigneur, pour tous les serviteurs fidèles de Dieu qui, pendant des années et des années, ont prêché ta parole. Merci pour toutes les personnes qui sont passées dans cette église, qui ont été baptisées, qui t'ont rencontré ici. Merci pour toutes les personnes qui ont servi ton nom. Merci pour tous ceux et toutes celles qui sont venus ici, qui ont été restaurés, qui ont été encouragés. Merci pour toutes les amitiés qu'il y a eu dans cette église. Merci pour la façon dont tu as construit cette église, que ce soit le culte sinophone, que ce soit le culte francophone. Notre Dieu, notre roi, on veut juste être reconnaissant. Reconnaissant parce que c'est ton œuvre, c'est toi qui fais cette œuvre dans cette église. C'est ton esprit qui a permis que autant de gens soient convertis, autant de gens grandissent avec toi, autant de gens soient transformés. Merci pour tous les couples aussi qui se sont formés. Merci pour tous les enfants qui ont été portés. Merci pour les nouvelles générations qui se lèvent, notre Dieu, dans cette église. Et nous voulons prier que tu continues à transformer les cœurs, transformer les êtres, afin que chacune et chacun soit rempli de la connaissance de ta volonté, afin que chacune et chacun puisse progresser en toute bonne œuvre, puisse porter du fruit, puisse rayonner de ta grâce, puisse marcher d'une manière qui t'est entièrement digne, Jésus-Christ, et qui te plaise à tout égard. Et Seigneur Jésus, que ta puissance puisse continuer à les fortifier, que ton œuvre continue dans leur vie et dans leur cœur, et que cette série de Colossiens transforme tes enfants dans leur amour pour toi, dans leur compréhension de qui est Jésus-Christ, dans leur don de leur propre vie et dans leur service pour ta gloire. En ton nom, Jésus. Amen.